Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Tom et son chien Isan. Ce duo inséparable voyage à vélo déjà depuis plusieurs années. À seulement 17 ans, Tom est parti à vélo avec son chien et un ami à la découverte de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. Il nous racontera ce premier voyage de Nantes à Amsterdam sous une météo, comme vous l'entendrez, plutôt capricieuse. Cette première expérience a fait germer l'idée d'une plus grande aventure. Pourquoi ne pas rejoindre Athènes à vélo? Le défi était fixé et prêt à être relevé. En mai 2021, Tom et Isan partent à la découverte de l'Europe. De la France à la Grèce, en passant par les îles croates ou encore l'Albanie, Tom nous raconte les belles anecdotes de ce voyage et ses rencontres inspirantes. Ce témoignage est aussi l'occasion d'en savoir plus sur le voyage à vélo avec un animal de compagnie. Tom se fera donc le porte-parole d'Isan, son berger écossais, fièrement installé à l'avant de son vélo. Il nous dira comment transporter son fidèle compagnon, comment organiser le ravito en croquette, ou encore que faire quand une horde de chiens errants se dresse en travers de la route. Cet épisode de Cyclotopo est le premier épisode consacré à un voyageur et son animal de compagnie. C'est un épisode plein de bons conseils et qui mettra, je suis sûre, la puce à l'oreille à certains de nos auditeurs pour se lancer dans un voyage à vélo avec leur chien, leur chat ou leur autre fidèle compagnon. Je vous souhaite une excellente écoute! Bonjour Tom!
Salut Claire!
Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Cyclotopo. Tu vas nous parler de ton beau voyage à travers l'Europe avec ton chien, ce qui n'est pas commun, donc j'ai hâte d'en savoir plus.
Avec grand plaisir.
Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter? Où vis-tu? Que fais-tu dans la vie? Et depuis quand voyages-tu à vélo?
Donc moi c'est Tom, je suis actuellement en école d'ingénieur à La Rochelle et je suis une alternance à Nantes. Donc j'ai très tôt été passionné de vélo, j'ai pratiqué le BMX en course pendant 15 années, à partir de mes 5 ans si mes souvenirs sont bons. Mais jamais de voyage à vélo dans ma tendre jeunesse, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé les voyages en vélo l'année de mon bac, où donc je suis parti à Amsterdam pour mon premier voyage à vélo, accompagné de mon chien toujours et un de mes meilleurs amis qui était du club de BMX aussi.
Ok.
Et donc on avait cette envie de partir un peu à vélo, enfin de partir tout court. On n'avait pas trop les moyens. On s'est dit bon, on aime bien le vélo, on va partir à vélo.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier voyage en 2017? Je crois que tu as été de Nantes à Amsterdam, il me semble.
C'est ça. Ouais. C'est ça, donc je suis parti avec mon ami qui lui avait déjà fait quelques grosses balades à vélo, pas vraiment des voyages mais des grosses balades, donc ça rassurait un peu la maman que je puisse partir avec lui parce que j'étais quand même jeune, j'avais 17 ans quand je suis parti. Et donc on est parti en direction des Pays-Bas parce qu'on s'est dit pays du vélo, en plus là-bas ça devrait être agréable. Donc on a remonté la Loire pour commencer, vu qu'on est parti de Nantes. On a remonté la Loire jusqu'à Orléans, pour ensuite rejoindre Paris. Ensuite de Paris, on a rejoint Bruxelles en longeant plus ou moins des canals, mais finalement en prenant plus des routes départementales qu'autre chose. Et à partir de Bruxelles, c'était un peu plus simple, puisque là-bas, ils ont les infrastructures cyclables adaptées. Et donc on a pu suivre une piste cyclable de Bruxelles jusqu'à Amsterdam, en étant quasiment pas sur la route sur la fin. C'était vraiment cool, on était parti un peu dans l'optique de faire plus de rencontres, mais on s'est rendu compte que le chien pour être accueilli chez les gens, c'est pas forcément l'idéal. Donc on avait notre compagnie tout le temps pour nous, mais pour rencontrer des gens dans la rue, c'est super sympa, ça fait une première approche, on va dire, le chien. Les gens viennent forcément le voir, le caresser et tout. Mais quand il s'agit de nous accueillir chez eux, sachant qu'on a eu du mauvais temps sur toute la route, mon chien a les poils longs, il sentait pas forcément bon, il était pas forcément propre. Donc je sais qu'au niveau de l'accueil là-dessus, ça nous a un peu calmé. On s'est dit bon bah on va pas trop compter sur l'accueil des gens, mais du coup on dormait en camping sauvage et c'est très bien passé comme ça. On a fait des très belles rencontres d'autres cyclistes aux Pays-Bas, des gens aussi qui nous demandaient juste d'où on venait, ce qu'on faisait. Je garde quand même un très bon souvenir au niveau des rencontres là-dessus, mais moins au niveau de l'accueil, mais à cause du chien, je suppose.
Oui, c'est une belle première expérience en tout cas.
Oui.
Et vous avez fait le trajet sur combien de jours? Une semaine, 2 semaines?
Non, plus que ça, il me semble qu'on avait mis 20 jours
D'accord.
à arriver là-bas. Et à la base, on voulait faire le retour aussi. Parce qu'on a un peu traîné sur l'allée. On a eu du vraiment très mauvais temps aussi. Il y a 3 jours de suite, on est resté bloqué à cause du vent. Enfin, c'était, moi, j'avais la caisse du chien à l'avant. Ça prend vraiment beaucoup le vent. Donc, dès qu'il y avait trop de vent, c'était pas possible. On préférait se reposer et partir plus tard. On a été pas mal bloqué à cause du temps. Et il se trouve que là-bas, après, on est retourné jusqu'à Bruges en vélo. Et de Bruges, on avait des impératifs tous les deux sur Nantes. À notre tour, du coup, de Bruges, on a pris des trains pour rentrer.
Oui, mais à 17 ans, ça fait quand même un beau voyage, 20 jours à vélo, en Europe.
Ouais, bah, c'était préparé depuis un petit moment au moment où je suis parti. Je tannais ma maman depuis un certain temps pour pouvoir partir. Donc, non, j'étais vraiment content de cette expérience.
Et donc, tu nous parlais de ton chien. Est-ce que tu peux nous le présenter? Parce qu'il va jouer une part importante dans cet
Yes.
épisode quand même.
Oui, bah il est toujours avec moi, donc c'est mon chien que j'ai eu assez jeune, il me semble que j'avais 13 ou 14 ans. Et ça a toujours, donc moi je vis encore avec ma maman, mais ça a toujours été plus ou moins mon chien quand même. Quand il faut s'en occuper, c'est mon chien, quoi. Et donc quand j'ai dit à ma maman que je voulais partir un mois faire un voyage en vélo, c'était au mois de juillet, elle m'a dit bah, pas de souci, mais par contre t'as un chien, donc tu emmènes le chien parce que je vais pas m'occuper du chien pendant un mois. Donc j'ai dit pas de souci, je vais fabriquer une caisse, je vais partir avec le chien. Et donc ça s'est très bien passé. Mais donc là on est parti, on a dû s'entraîner, on a dû faire une ou deux balades en vélo avant avec le chien. Mais il faut savoir qu'il est très très calme, il obéit quand même assez bien. C'est un tout petit chien avec plein de poils, il passe bien auprès de tout le monde. Donc que des bonnes anecdotes avec le chien pendant les voyages, j'ai envie de dire. Ça apporte des difficultés parce que ça met forcément du poids sur le vélo. Voilà. En plus du chien, il y a toutes les croquettes, ses jouets,
Oui.
enfin, toutes ces affaires. Donc ça fait quand même une contrainte de poids, mais pour tous les avantages que ça m'apporte, je me vois pas partir un mois sans mon chien. Il faut qu'il soit avec moi, quoi.
Finalement, c'est un peu comme un enfant.
Un peu. Après, je suis un peu jeune pour comparer ça à un enfant, mais on peut dire que c'est mon petit gamin.
Voilà. Et tu nous parlais de la caisse d'Issan, ton chien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu l'avais mise sur le vélo, comment tu l'as construite, voilà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça?
Alors du coup, c'était deux caisses différentes pour le voyage à Amsterdam et le second voyage à Athènes. Le premier voyage, j'ai simplement récupéré une caisse en plastique. Alors d'où elle venait, je sais plus. C'était une boîte en plastique tout simplement, et je l'ai fixée avec des gros. Je l'ai percée, je l'ai fixée avec des grands riselins sur un porte-bagages avant qui avait un petit plateau. Et ensuite, on a vissé un peu des montants en bois pour pouvoir lui mettre une serviette par-dessus en guise de pare-soleil un peu, qui a plus fait office de parapluie que de pare-soleil pour le premier voyage. La caisse était quand même assez petite et on partait qu'un mois, donc on s'est dit que ça allait aller. Mais pour Athènes, je me suis dit que ce serait quand même bien que le chien puisse se coucher dans sa caisse. Parce que quand je suis parti à Amsterdam, il a passé son trajet entier assis, à pas se coucher. Il aurait pu, mais il voulait pas. Je me suis dit, je vais faire une caisse plus grande, comme ça il sera à l'aise, il se couchera. Donc j'ai acheté des plaques de plexiglas avec des montants en alu, une base en bois, et le père de mon ami avec qui je suis parti est menuisier, donc il a tout l'atelier, tous les outils nécessaires, donc on a construit ça ensemble. Enfin, finalement il l'a plus construit que moi, mais j'étais à côté. Et on a fait une caisse plus grande dans laquelle il pouvait se coucher, mais enfin, il s'est jamais couché pendant les 3 mois où je suis parti à Athènes. Il s'est jamais couché dans sa caisse parce que je sais pas, ça lui allait pas. Donc la deuxième était faite maison
Ouais.
et ça a moins bien tenu que la première. Avec le recul, je préfère partir avec une caisse en plastique bien solide plutôt qu'un truc en plexi que j'ai construit moi-même. Parce que j'ai eu beaucoup de les réparations m'ont beaucoup occupé sur le voyage à Athènes, on va dire.
Tu m'étonnes. Surtout que c'est ton seul moyen de transporter ton chien. Donc quand tu es perdu au milieu de nulle part,
Ouais, c'est exactement ça. Surtout en Grèce, avec la chaleur qu'il faisait, il pouvait pas courir avec tous ses poils. Il courait 5 minutes, mais après il était mort, quoi.
De toute façon, même un chien, peut-être d'un plus gros gabarit, ne courrait pas ce 60 ou 80 km
Non, ouais.
par jour à côté de toi. Donc. Ouais, je comprends tout à fait. Tu nous disais que la caisse était à l'avant de ton vélo.
Oui.
Et que ton chien était toujours debout, ou en tout cas assis dedans. Est-ce que ça ne te déséquilibre pas trop? Comment tu gères ça? Parce qu'il doit bouger un petit peu quand même.
Alors, ouais, sur la plus grande caisse, du coup, c'était au début, c'était un peu plus compliqué parce que justement, il aimait bien tourner un peu en rond quand il y a des voitures qui nous doublaient, regarder derrière, regarder devant. Et donc, j'ai eu deux, trois frayeurs quand même où il me déséquilibrait pas mal. Sachant que mon vélo était quand même énormément chargé aussi, j'arrive pas trop à faire au strict minimum en partant, donc j'en ai toujours trop de choses et des choses trop grosses. Mais donc avec le poids total, ouais, j'ai été déséquilibré pas mal. Et en fait, au final, du coup, vu que j'ai vu qu'il se couchait pas, j'ai fini par me servir de la caisse comme entre guillemets stockage aussi. Et j'ai mis des choses sur les côtés pour qu'il reste au milieu et que bah, quitte à rester assis, au moins qu'il reste assis au milieu, quoi.
Ok. En tout cas, je regardais quelques photos. Vous faites un fier équipage avec ton chien debout,
C'est gentil, merci.
debout à l'avant et toi sur ton vélo. C'est très chouette.
Ça a surpris un paquet de gens aussi, ouais.
Tu
On se fait souvent alpaguer.
m'étonnes. Bon, on va du coup parler de ton plus grand voyage que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, tu nous disais que tu as été de Nantes à Athènes à vélo.
C'est ça.
Fin mai 2021, tu es parti pour une traversée d'Europe à vélo avec ton chien. On a parlé de ton chien, on a parlé de la caisse. On va peut-être remonter peut-être un petit peu avant, un petit peu en arrière. Comment est venue cette idée de voyage et surtout, comment est venue l'idée d'Athènes? Tu aurais pu aller ailleurs en Europe.
L'idée m'est venue quand je suis revenu d'Amsterdam. Donc, à peine rentré, je savais que je voulais repartir à vélo. Et depuis enfant, j'ai toujours une attirance, ouais, pour Athènes, la Grèce, la mythologie grecque. J'avais déjà fait Athènes au cours de vacances étant plus jeune, mais seulement une journée. En fait, j'étais en vacances en Grèce, on a visité Athènes une journée rapidement. Et en plus, la route est quand même sympa de Nantes jusqu'à Athènes. On longe la côte méditerranéenne, ensuite la mer Adriatique. Donc, c'est venu naturellement quand je suis revenu d'Amsterdam. En fait, j'ai dit que la prochaine destination serait Athènes. Et ça m'est plus sorti de la tête jusqu'à ce que je reparte.
Ok. Et comment a réagi ta famille à l'annonce de ton voyage à vélo? Tu me disais quand tu avais 17 ans, ta maman était un petit peu inquiète. Est-ce que là, c'était le cas aussi?
Non, c'est mieux passé, sachant que j'étais déjà parti une première fois. Le seul hic, on va dire, c'est que je partais tout seul. Donc ça inquiétait un peu plus, notamment la maman aussi. Mais bon, j'ai grandi depuis, j'ai bossé, j'ai mûri. Je pense qu'elle s'inquiétait moins quand même que pour mon voyage à mes 17 ans. Et ce qui l'a rassuré et un peu convaincu, c'est que du coup, j'ai convaincu mon ami Clément, qui était parti à Amsterdam avec moi, de faire au moins le début du trajet avec moi pour aller à Athènes.
Ok.
Donc ça l'a un peu rassuré que sur le début je sois pas tout seul et que on soit deux pour se soutenir. Clément a quand même un peu plus d'expérience de vélo que moi, enfin de voyage à vélo. Au niveau des camps et tout, il a les meilleurs réflexes, enfin il avait les meilleurs réflexes que moi. Et donc il est parti avec moi jusqu'à Marseille, le temps d'un mois en fait. Il est venu avec moi. Donc ça a rassuré ma famille.
D'accord, ça marche. Donc tu as passé les premiers mois en France
C'est ça.
et après tu avais une contrainte sur la date pour le retour ou je suppose tes études qui reprenaient en septembre.
Exactement, ouais. Bah en fait, dans le cursus de mes études, dans le cursus ingénieur, on a l'occasion de passer 3 mois à l'international. C'est une expérience internationale. À la base, on est censé, quand on est en alternance, trouver par exemple une entreprise partenaire ou des fournisseurs ou qui que ce soit qui travaille avec notre entreprise et trouver une mission là-bas à l'étranger et aller bosser pendant 3 mois à l'étranger. Il se trouve que mon entreprise travaille seulement en France et est implantée seulement en France. Le Covid est arrivé, donc l'école nous a informé qu'on n'était plus obligé de partir ces 3 mois. Mais moi, ça faisait quand même partie des choses que je voulais faire durant mon parcours d'études. Enfin, j'ai une maman qui est allemande, j'ai toute ma famille qui est en Allemagne, j'ai toujours été très attiré par l'international. Donc pour moi, c'était nécessaire de passer une partie de mes études à l'étranger, en fait. Donc vu que le Covid est venu, c'était un peu compliqué de trouver un stage à l'étranger dans une entreprise. Et mon idée de partir à Athènes en vélo me trottait toujours un peu dans la tête. Donc, je suis d'abord allé du côté de mon entreprise. J'ai demandé si potentiellement, dans le cadre de cette expérience à l'étranger, c'était possible de mener un projet et de partir à vélo. Ils ont été d'accord directement. Donc, j'ai vu avec l'école. L'école a validé aussi. Et je suis parti en partenariat, on va dire, un peu avec mon entreprise et mon école. Et donc, par contre, du coup, la durée devait pas déborder sur les 3 mois. Vis-à-vis de l'école, ça aurait pu durer plus longtemps, mais j'étais en contrat d'alternance, donc mon entreprise voulait quand même que je revienne bosser au terme de cette expérience. Et donc on a défini 3 mois et j'avais donc 3 mois pour partir. Il fallait que je revienne le début septembre, il me semble. Un truc comme ça.
Et est-ce que tu avais, entre guillemets, des comptes à rendre à ton école? Est-ce que tu avais un rapport à faire, je ne sais pas, quelque chose à développer autour de ton voyage?
Non, du tout. Il fallait juste les preuves que j'étais vraiment à l'international pour le valider en tant qu'expérience internationale. Et après, j'ai trouvé des partenaires en fait avec l'école, donc avec des professeurs qui avaient un peu plus de contacts que moi dans La Rochelle avec certaines associations. Donc j'ai monté un partenariat avec eux et vis-à-vis du partenariat, il fallait que je rende des comptes, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'était plus, du coup, on s'est mis d'accord pour que eux puissent s'appuyer sur mon expérience pour promouvoir la mobilité durable et que moi, de mon côté, je le fasse aussi. Moi, je me suis plus axé sur le vélo que sur la mobilité durable en termes généraux. Mais d'où aussi le compte Instagram. Et je sais que j'ai fait. Enfin, on va faire une expo photo dans l'école, avec l'association. Même à terme de cette expérience, je fais encore des choses pour ces associations au travers de l'école.
Oui, puis ça permet de faire vivre ton projet de voyage un peu plus longtemps et de promouvoir aussi du coup le voyage à vélo. Donc c'est une belle expérience.
Exactement.
Tu nous parlais de partenaire et de sponsor. Il me semble que tu avais un sponsor pour les croquettes de ton chien. Est-ce que tu peux nous en
Oui,
dire un peu
tout
plus?
à fait. Alors, donc oui, il fallait donc nourrir le chien, comme je le disais. Et les croquettes, c'est quand même un sacré budget, j'ai envie de dire. Et il se trouve que ma sœur était en alternance dans une entreprise d'équipement animal, enfin, qui font plein de choses, des jouets pour les chevaux, pour les chiens. Et ils sont implantés partout en Europe. Et donc pareil, dans le même cadre où un peu ils pouvaient se servir de moi comme égérie, un peu faire aussi de la pub, que moi je porte leurs couleurs. On s'est mis d'accord pour que à chaque fois que j'ai besoin de nourriture, je m'organise un peu avec les enseignes dans chacun des pays. Et pour que eux, après, on se retrouve et me fournissent l'alimentation du chien. Et en plus de ça, ils m'ont fourni des serviettes, des jouets pour le chien,
Ah,
des
c'est chouette.
friandises. Enfin, il a été gâté plus qu'à la maison pendant ce voyage, donc c'était génial.
C'est chouette. Et du coup, alors, par simple curiosité, tu transportes combien de kilos de croquettes avec toi?
Alors c'était entre 2,5 et 5 kilos.
Ok.
Normalement, ça devait être 2,5, mais on me donnait souvent deux sacs et c'était compliqué de dire non quand on me donnait des choses, parce que, enfin, je me souviens notamment en Slovénie, ils étaient super contents de me voir. Moi, j'avais pas trop le temps parce que le soir, il fallait que je rejoigne un autre cycliste que j'avais croisé. J'avais encore beaucoup de kilomètres à faire et je sentais qu'ils voulaient limite que je reste le soir avec eux. Et du coup, je devais repartir et souvent, on me donnait ouais, 5 kilos. Au début, j'avais 5 kilos. Après, au début, il mangeait beaucoup le soir. Ça partait un peu plus vite, je lui en donnais un peu plus. Et sans compter aussi bah, tout ce qui est les brosses, les serviettes, les friandises, les jouets. En général, il avait les 3/4 d'une sacoche consacrée à lui, le chien.
Ton vélo devait être bien chargé avec tes sacoches, ton matériel à toi, plus ton chien du coup qui est aussi sur le vélo, plus son matériel.
Ouais, c'était lourd. Bah, avec le chien tout compris, le vélo, la caisse, toutes les sacoches, il me semble qu'on avait pesé avec Clément, je crois que j'étais à 60 kilos, un truc comme ça.
Ah ouais, ah, c'est énorme.
Avec le chien et le vélo compris, hein. Mais j'ai surpris pas mal de cyclistes sur la route, ouais, quand
Tu m'étonnes.
il y en a qui voulaient essayer le vélo, qui prenaient le vélo entre les mains, qui disaient, ah non, en fait, je veux pas essayer.
Et donc du coup, on va parler un petit peu de matériel avant de passer sur le voyage. Est-ce que tu as acheté un vélo pour ce voyage ou tu as utilisé un vélo que tu avais déjà?
Donc à la base j'étais censé utiliser un vélo que j'avais déjà, donc le même avec lequel j'étais parti à Amsterdam. C'est un VTT classique, parce que je voulais toujours quand même avoir un vélo qui puisse me servir de VTT sur Nantes. Et à 17 ans je pouvais pas encore m'acheter tous les vélos que je voulais. Enfin toujours pas d'ailleurs, mais je pouvais m'acheter qu'un vélo et donc j'ai pris un VTT mais sur lequel je pouvais adapter les porte-bagages à l'avant, à l'arrière. Enfin, j'avais pour Amsterdam, j'avais pas changé le guidon ni la selle. Du coup là pour Athènes, je voulais reprendre le même vélo mais en changeant la selle, en mettant un guidon papillon parce que j'ai quelques problèmes de dos donc pour pouvoir me tenir un peu plus droit. Et j'avais racheté aussi des porte-bagages parce que ils avaient souffert depuis, enfin avec Amsterdam et depuis aussi. Et il se trouve qu'une semaine avant mon départ, je me suis fait voler mon vélo dans Nantes.
Ah ouais?
Donc ouais, c'était la mauvaise surprise. Un soir, j'étais en soirée chez des amis, je l'avais attaché en ville et ils ont cassé le cadenas, ils sont partis avec le vélo. Donc voilà. Et j'ai eu de la chance de pouvoir retrouver le même vélo. C'était pendant la pénurie des vélos là, à cause du confinement et tout ça. J'ai réussi à retrouver exactement le même modèle sur Internet. Je l'ai commandé et il est arrivé, sauf qu'il avait aucune fixation pour les porte-bagages. Il n'avait pas les trous pour mettre les vis des porte-bagages. J'ai dû re-racheter des porte-bagages qui s'adaptent différemment sur le vélo et qui m'ont posé énormément de problèmes. Donc avec le recul, j'aurais mieux fait d'acheter un vrai vélo de voyage plutôt que de vouloir un VTT à côté. Mais bon, ça a tenu quand même, hein, ça l'a fait quand même. Mais du coup, tout tenait avec pour faire simple, avec des bacs de serrage sur lesquels le porte-bagages, les pieds du porte-bagages venaient se fixer en fait. Et donc avec le poids du chien à l'arrière de la tente et tout, ça finissait toujours par glisser et par soit taper dans les rayons, soit taper dans le disque. Enfin, je devais souvent resserrer tout l'attirail, on va dire.
Ok. C'était quoi tes problèmes par rapport à ton vélo sur la fourche majoritairement ou...
Ouais, sur la fourche, j'avais les bacs du coup qui se desserraient pas, mais avec le poids du chien, dès qu'on prenait un peu des chemins ou quoi, je pense qu'avec les vibrations, ça faisait descendre un peu l'ensemble du porte-bagages. Et à l'arrière, pas mal aussi, parce que du coup, le porte-bagages était beaucoup moins résistant qu'un porte-bagages qu'on peut fixer avec des vis directement sur le cadre. Donc j'ai eu pas mal de problèmes au niveau du porte-bagages qui lâchait, en fait, les soudures qui lâchaient. En fait, j'avais trop de poids pour la capacité du porte-bagages, du coup. J'avais pas mal de balancier, le porte-bagages il tenait pas forcément de façon très rigide sur le vélo. Donc c'était un peu mou et je sentais que quand j'étais en danseuse par exemple, tout l'arrière se baladait un peu de droite à gauche, quoi.
Ouais, je comprends. Et puis même sur un vélo peut-être plus basique, alors c'est sûr que la fourche, ça aide pas si tu mets du poids dessus, mais même sur un vélo plus basique, la plupart sont donnés pour un poids de 120, 130 kilos. Alors si t'as déjà 60 kilos rien qu'avec tous tes bagages et ton chien, ouais, je comprends que sur un VTT, ça doit pas lui faire du bien.
J'ai pas trop respecté les limites en effet, j'ai un peu malmené le matériel, mais bon, on est arrivé à bon port.
Ouais, c'est principal, c'est principal. Alors, on a parlé du vélo, de la caisse pour Issan. On peut parler un peu du reste du matériel. Est-ce que tu as acheté tout ton matériel? Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà, niveau tente, sac de couchage et autres?
J'ai pas mal acheté du coup parce que pour mon premier voyage à Amsterdam je m'étais fait prêter pas mal d'affaires. Enfin, je pense au sac de couchage, au matelas, au réchaud, bah tout ce qui sert pour les camps en fait, ça on me l'avait prêté. Et on n'avait qu'une tente pour deux avec Clément, et donc c'était la tente de Clément. Donc j'ai tout racheté pour avoir mon propre matos. Et donc ouais, j'ai acheté une tente, tout le matériel de camping. Les petites bouteilles de gaz, le réchaud, la petite popote avec les assiettes, sac de couchage, matelas. J'ai essayé de prendre des choses pas trop chères parce que j'avais pas non plus un budget fou. Après au niveau pareil avec le recul, je me dis que maintenant j'aimerais bien réutiliser mon matériel. Là au final, je vais devoir racheter des choses parce qu'il y a des choses qui n'ont pas tenu la route. Je pense qu'il vaut mieux quitte à mettre un peu plus d'argent dès le début, au moins avoir un matos qui tient bien et qui fasse toute la route.
Bon, et puis tu es étudiant, donc je comprends que t'es pas un budget non plus illimité pour tes affaires de vélo.
J'ai la chance d'être en alternance déjà.
Alors, on va clore la partie matérielle. Est-ce qu'avant de partir, donc avant ton voyage, est-ce que tu avais des peurs ou des appréhensions?
Alors pas spécialement, plus pour le chien en termes de chaleur, puisque je partais quand même vers la Grèce. J'avais prévu d'arriver en plein mois d'août, donc je me suis dit qu'au niveau, enfin plusieurs personnes m'ont alerté un peu en me disant que pour le chien ça pouvait être compliqué. Parce que ça reste un chien d'Écosse qui préfère pas la pluie, mais pas les climats chauds, quoi. Je m'inquiétais un peu pour ça, qu'il fasse des insolations, qu'il supporte pas la chaleur. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Mais du coup, je m'étais dit que au pire, je roulerais un peu plus le soir et tôt le matin, quitte à faire des siestes l'après-midi et tout. Mais au final, à ce niveau-là, ça s'est super bien passé, malgré les grosses chaleurs qu'on a pu avoir, c'est super bien passé. Et sinon, j'appréhendais un peu le moment où Clément allait me quitter et où j'allais me retrouver tout seul. Mais j'avais aussi cette envie de voyager vraiment tout seul, de... C'est un peu classique de dire ça, mais de faire le point avec soi-même, d'être tout seul sur son vélo à longueur de journée et de... d'avoir personne à qui parler, seulement réfléchir, se poser un peu sur soi, sur sa vie, quoi. Donc j'avais hâte de ce moment-là, mais j'appréhendais un peu quand même. Et j'avoue que les premiers jours ont été difficiles sans Clément. Le moral n'était pas forcément toujours au rendez-vous, mais ça a duré 3-4 jours et après c'est passé, quoi.
Donc tu es parti le 31 mai 2021 de Nantes avec ton chien bien installé sur ton vélo. Donc tu es parti en direction de la Grèce. Et comme tu nous disais tout à l'heure, tu as d'abord traversé la France de Nantes jusqu'à Marseille
C'est ça.
pendant un mois avec Clément. Et après tu es parti du coup vers l'Italie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton départ? Est-ce que tu étais pressé de partir?
Oui, ouais, j'étais clairement pressé de partir. Après, j'ai tout organisé un peu au dernier moment, même les partenaires dont on parlait tout à l'heure, avec les associations, avec l'école et tout. Tout s'est fait en gros un mois avant mon départ. Donc j'étais en plein dans les préparatifs et c'est vrai que sur la fin, j'avais qu'une envie, c'était de partir, quoi. Donc la nuit du 30 au 31 mai, j'étais un peu surexcité. Et la première étape, c'était seulement rejoindre la côte atlantique. En fait, j'avais 50 km à faire, je pense, parce que Clément habite là-bas, et pour terminer les préparatifs là-bas et faire ma première nuit là-bas. Mais oui, j'étais extrêmement pressé de partir.
Et comment se sont passés tes premiers jours de voyage à vélo avec Clément en France?
Pour le début, ça allait, ça s'est très bien passé. Après, il y avait l'excitation du départ, je pense. Et donc le tout début s'est vraiment bien passé. Après, quand on a commencé à dépasser La Rochelle et que tous les deux on connaissait plus la route, on s'est rendu compte que c'était pas toujours les meilleurs. Enfin, nous on était un peu dans l'optique de rouler assez vite quand même. Et les pistes cyclables, la Vélodyssée, c'est souvent un peu la terre ou des chemins où ça fait des détours par rapport à la route qui est à côté. Donc ça, au début, je sais qu'on était souvent mitigé entre prendre la piste cyclable un peu plus agréable ou alors prendre la départementale qui est 20 mètres à côté, mais au moins tu peux rouler un peu plus vite et aller tout droit, quoi. Sinon, dans l'ensemble, ça correspondait à mes attentes. C'était le début du voyage, c'était la bonne humeur. Et les rencontres ont très vite commencé à arriver, à rythmer le trajet, donc c'était cool.
Je ne t'avais pas demandé tout à l'heure, mais est-ce que tu avais tracé ton itinéraire à l'avance ou vous faisiez au jour le jour du coup?
Non, j'avais absolument rien tracé. Enfin, je savais en gros par où j'allais passer. Mais non, c'était vraiment le matin quand on se levait, on regardait rapidement sur le GPS, enfin sur le téléphone, par où on allait passer, et on se donnait un peu un objectif pour le soir, quoi. Mais non, j'avais absolument rien prévu, et pareil, j'aurais peut-être mieux fait de un peu plus prévoir. En France encore, ça allait. Mais après, il y a l'Eurovélo 8 qui est connu de... Je crois qu'il y a des mares de Nice et qui est censé aller jusqu'à Athènes. En fait, quand on creuse un peu sur les sites de l'Eurovélo, cette piste cyclable, elle n'existe pas du tout encore. C'est en élaboration de tracé. Donc moi, je suis parti un peu dans l'optique de... Bon, jusqu'à Nice, ça va le faire. Après, de Nice, j'ai une piste cyclable jusqu'à Athènes. Ça va être parfait, quoi. C'est pas du tout passé comme ça, mais c'est pas grave. Comme ça, j'ai découvert des endroits par lesquels j'avais pas prévu de passer aussi. Ouais, il y avait rien d'organisé à part... Le gros fil conducteur est l'arrivée, quoi, Athènes.
Mais c'est vrai qu'on parle souvent de cet Eurovélo 8. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient l'emprunter et puis quand ils arrivent dessus, ils sont un peu, c'est un peu des enchantements.
Oui, bah c'est ouais, le tracé existe sur Internet, quoi. Mais pour les dédouanés, là, il y a une bonne partie quand même de la côte méditerranéenne où on peut suivre une piste cyclable, qui est très sympa, qui longe la route, mais on est séparé des voitures, donc ça c'est vraiment cool. Non, pour le coup, la Méditerranée, ça allait encore. C'est plus après l'Italie que...
Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de la suite de ton itinéraire? Donc, après la France, tu es parti en direction d'Italie.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu, du coup, la suite de ton itinéraire?
Du coup, j'ai rejoint la frontière au niveau de Menton, donc la dernière ville en France sur la côte méditerranéenne avant l'Italie. Et il y avait deux options, soit je continuais entre guillemets tout droit par les plaines d'Italie, et l'idée c'est que je voulais rejoindre Venise. soit je m'étais quand même dit que je voulais un peu faire de montagne et monter dans les Alpes, donc soit je remontais un peu au-dessus de Menton pour aller vers Turin, il me semble, ou un peu au-dessus. Et donc j'ai décidé de choisir cette seconde option, et je suis passé par le col de Tende avec la vallée du Roya qui a été détruite il y a quelques années à cause d'une tempête. Et en fait, il y a plus de route, donc les mauvaises surprises ont commencé comme ça. C'est une route en travaux qui est fermée toute la journée, qui ouvre seulement pour les habitants du village aux heures d'embauche et de débauche en gros. Je me suis retrouvé en Italie premier jour bloqué à l'entrée de la route parce que c'était fermé pour travaux et à attendre 17 h qu'ils ouvrent la route pour que je puisse passer. Donc très mauvais souvenir des Alpes avec leur culpe. Pareil, j'aurais dû passer par les plaines et continuer tout droit. En plus, j'ai croisé d'autres cyclistes ensuite qui m'ont dit qu'il y avait un beau canal avec une belle piste cyclable qui traversait l'Italie à cet endroit-là. Donc, en se renseignant un peu plus, on trouve des itinéraires plus faciles, mais c'est ça aussi de s'organiser au jour le jour. Une fois que j'ai passé les Alpes, après j'ai fait le nord de l'Italie, je suis passé au lac de Garde. Je me suis retrouvé avec un cycliste là-bas que j'avais croisé dans le sud de la France sur la route. On s'était échangé nos réseaux sociaux, on discutait un peu, on se donnait des nouvelles. Et lui arrivé au lac de Garde, moi c'était à 100 et quelques kilomètres le matin de là où j'étais, donc je me suis dit bon allez je me motive. Normalement je faisais un peu moins de 100 km à la journée, surtout là je venais de passer les Alpes, enfin, c'était un peu compliqué. Je me suis motivé, on s'est rejoint là-bas et après on a continué jusqu'à Venise ensemble. C'était un peu plus simple parce que lui avait investi dans un bon GPS vélo qui lui faisait prendre les bonnes pistes cyclables, les bons itinéraires. Parce que moi c'est pareil, vu que j'avais que mon téléphone et une carte, j'étais jamais sûr de si j'étais sur la bonne route ou quoi. Donc là j'ai vu qu'un GPS quand même faisait gagner pas mal de temps et d'énergie. Jusqu'à Venise, ça s'est super bien passé avec lui. Et après Venise, donc on a décidé de faire une petite pause à Venise parce qu'on voulait tous les deux visiter Venise. Et nos chemins se séparaient là-bas, on prenait plus la même direction après, donc on a pris quelques jours à Venise, enfin j'ai pris 2 jours à Venise. Et dans Venise, j'ai croisé à nouveau un autre cycliste, un autre Français, qui lui partait en Roumanie.
Ok.
Et donc lui m'a convaincu d'aller au lac de Bled, en Slovénie, qui n'était pas du tout sur mon itinéraire non plus de base. Mais quand il m'a montré les photos, j'ai dit, oula, ça a l'air très sympa, ça, y a pas tant de détours que ça, je vais y aller avec toi, c'est bon, tu m'as motivé. On est remonté avec lui jusqu'à Bled, en Slovénie. Ça, on est passé par pas mal de montagnes aussi, moi, je sais qu'avec le chien, les montagnes, c'était pas forcément l'idéal, les montées, c'était vraiment dur. Mais ça valait le coup, parce que Bled, c'est vraiment magnifique, enfin, avec le recul, là, c'est un des plus beaux endroits que j'ai fait de tout le voyage. Donc vraiment bon imprévu quoi, j'ai envie de dire. Grâce à une rencontre, j'ai fait un détour que je voulais pas du tout faire. C'est super bien passé avec il s'appelait Florian, donc on est toujours en contact aujourd'hui. Super belle rencontre, j'ai passé on a dû rester une semaine ensemble. C'était vraiment une semaine super cool.
Et est-ce que tu peux nous décrire un peu le paysage du lac de Bled du coup?
Alors le lac de Bled, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pas un si grand lac que ça, mais un beau lac avec une chapelle au milieu, enfin même une église au milieu du lac à laquelle on n'accède que par bateau. Et vu qu'il y a pas mal de montagnes autour, on peut vite monter et avoir un très bel aperçu sur le lac. En plus, on devait être mi-juillet à ce moment-là, donc il commençait à faire chaud, il y avait des petites plages sur le lac, enfin, c'était un semblant de vacances, on pouvait se baigner, poser les vélos sans trop de soucis, on avait pris un Airbnb à deux, et on a passé je sais plus 2 ou 3 jours là-bas, un peu en guise de vacances et de repos, quoi.
Donc en fait, sur cette première partie du voyage, tu as été assez peu seul finalement, puisque de fil en aiguille,
Oui.
tu as rencontré pas mal de voyageurs.
Bah finalement sur tout le trajet, j'ai envie de dire que j'ai passé moins de temps tout seul qu'à plusieurs.
Donc après la Slovénie, tu as poursuivi par la Croatie. Je suppose qu'en Croatie, il fait assez chaud au mois de juillet. Comment
Ouais.
est-ce que tu as géré la chaleur en Croatie sur l'ensemble du voyage?
Oui, en effet, il fait chaud, c'est une destination très touristique et j'ai pu en voir les conséquences. Mais en termes de chaleur, non, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça devait être progressif aussi, je pense. Mais hormis quelques après-midi où vraiment je me rappelle que c'était insupportable, mais dans ces cas-là, de 14 à 16 heures, on s'arrête un peu à l'ombre et on continue après. Mais sinon, c'est pas la chaleur qui m'a bloqué plus dans mon avancée. Enfin, ça m'a pas marqué plus que ça. On a eu très chaud. Mais je disais toujours que je préfère avoir très chaud plutôt qu'un temps comme j'ai eu sur mon premier voyage de Nantes à Amsterdam où tous les jours, en fait, on était sous la pluie. Et je préfère pédaler sous 35 degrés que 4 jours de suite sous la pluie, franchement.
Ouais, tu m'étonnes. Tu en as pensé quoi de la Croatie à vélo? Je sais que Corentin, que tu connais et que tu connais bien, m'a dit que c'était peut-être pas son pays favori à cause notamment de la circulation et du flot de touristes qu'il y avait en été. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ah bah je le rejoins complètement là-dessus. Après, je nuance un peu quand même, puisque les paysages, c'est vraiment magnifique là-bas. Enfin, moi, j'ai adoré en termes de paysages. Je suis passé par les îles. Et c'est, ouais, bon, ça monte, c'est des petites montagnes, mais qui plongent directement dans l'eau turquoise. Donc c'est, en termes de paysage, c'est vraiment magnifique et on comprend les touristes qui vont passer leurs vacances là-bas. Mais ouais, j'avais un peu l'impression d'être le touriste français qui est pas venu à vélo, mais qui est venu faire du vélo en Croatie. Du coup, pareil, en termes de contact avec les locaux, c'était plus un contact de touriste à local plutôt qu'un contact de voyageur à vélo à local.
Tu nous parlais du contact avec les locaux. Est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être une ou deux rencontres qui t'ont marqué? Je pense qu'il y en a plein, mais ouais, si y en a une ou deux que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui.
Non, ouais, bah il y en a vraiment beaucoup. Après, c'est des petites attentions au quotidien en fait. Quand on s'arrête boire un café ou quoi que ce soit, souvent juste le gérant du restaurant nous dit bah écoute, c'est pour moi, c'est offert, t'as pas besoin de payer. Ou pareil, combien de fois la discussion est venue naturellement avec la table d'à côté et les gens ils demandent ce qu'ils peuvent faire, si combien de fois pareil on m'a acheté de la nourriture pour le chien. Quand je faisais mes courses, les gens voyaient que j'avais le chien, ils ressortaient. J'étais devant en train de faire une pause et ils avaient ramené des friandises pour le chien et tout. Donc toutes ces petites rencontres et ces petites attentions, je les retiens, mais sinon, plus particulièrement, c'est plus avec d'autres cyclistes, voyageurs aussi. Toutes mes rencontres, j'ai envie de dire, j'ai déjà cité donc Martin avec qui j'étais du lac de Garde à Venise, ensuite Florian, et sur la fin, après, bah, au sud de la Croatie, j'ai croisé Louis qui était nantais aussi. Et qui voyageait de Nice à Athènes en vélo et qui avait exactement le même âge que moi, qui faisait ça dans le cadre de ses études en école d'ingénieur aussi. Donc quand on s'est croisés, on n'en revenait pas trop. Mais du coup, on a terminé la route ensemble jusqu'à Athènes, du sud de la Croatie jusqu'à Athènes. Et ouais, s'il y a bien une rencontre que je dois retenir, c'est lui parce qu'on a passé vraiment énormément de temps ensemble et ça s'est super bien passé. Mais sinon, ces trois rencontres, après, c'était des on a eu la chance de pouvoir partager un bout de chemin ensemble malgré nos itinéraires qui dérivaient pour Martin et Florian, mais on était tous du même âge, on était tous un peu dans la même atmosphère de vouloir partir, vivre un peu à la sauvage, j'ai envie de dire, en cherchant un coin tous les soirs, enfin vivre de liberté quoi. Et du coup, quand on se retrouve avec des gens qui sont exactement dans le même optique que nous là-dessus, ça colle forcément quoi. Donc enfin, ces trois-là, je suis toujours en contact avec eux et je sais qu'on se reverra et que ça sera forcément des bons moments, quoi.
Moi, j'ai découvert cette année, en tout cas, via les épisodes Cyclotopos, un itinéraire qui est assez fréquenté.
Ouais.
Je ne pensais pas à la base, mais du coup, comme on en parlait, il y a Corentin, du coup, qui avait fait voyage, qui a aussi participé au podcast, qui avait fait, du coup, lui, dans l'autre sens, plutôt
Ouais.
Athènes-Nantes. Il y a aussi, du coup, les petits princes à vélo, Audin, Rodrigue et Sinclair, qui sont comme toi en école d'ingénieur. C'est assez impressionnant.
Ouais, j'ai croisé encore d'autres élèves ingénieurs aussi qui
C'est
faisaient
ouf.
la. Je sais plus d'où ils étaient partis, mais pareil, ils allaient à Athènes aussi.
Ouais, je sais pas pourquoi c'est un itinéraire qui attire tant, peut-être à cause de la Méditerranée, ou peut-être aussi parce que l'Eurovélo 8 est bien vendu, et voilà.
Bah, je pense que le cadre donne envie. Enfin, moi, enfin, pour ma part, je n'ai pas du tout pris cet itinéraire pour la piste cyclable. C'était plus une bonne coïncidence quand j'ai vu qu'il y avait une piste cyclable, quoi. Mais oui, je pense que le cadre attire quand même pas mal. Et on passe mine de rien quand même par des pays qui nous dépaysent pas mal, comme après on n'en a pas parlé encore, mais le Monténégro et l'Albanie. Moi j'ai eu du mal à croire que c'était, enfin quand j'ai passé la frontière de la Croatie au Monténégro, je me suis dit ah oui, enfin il y a un gap quand même. Ça, je pense que c'est dans les destinations pas trop loin où on peut vraiment être dépaysé et se sentir loin de chez soi quoi. C'est ce qu'on cherche tous un peu, je pense. Donc
Et qu'est-ce qui t'a dépaysé au Monténégro et en Albanie?
pour l'Albanie, tout simplement le développement du pays. On sent que, moi, je dis jamais que ce sont eux qui sont en retard, je préfère dire que c'est nous qui sommes en avance. Enfin, moi, j'adore cette chose-là où les gens sont tellement plus simples et tellement plus accueillants et moins méfiants et beaucoup plus gentils. Enfin, on sent que c'est pas la même mentalité qu'en France, par exemple, où les gens ont tendance à beaucoup se méfier quand même. Donc, c'est vraiment ça qui, en termes de dépaysement, où tu sens que les gens sont contents de voir des gens qui viennent de loin et qui viennent dans leur pays, quoi. C'est presque un honneur pour eux. Donc, t'es vraiment bien accueilli et la simplicité des gens et la gentillesse des gens, en fait, tout simplement.
Je comprends. Et tu nous parlais justement de l'accueil et je vais revenir un peu plus en avant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ton chien.
Yes.
comment ça se passait du coup pour être accueilli chez les gens? Tu me disais que c'était un peu compliqué parfois, que le chien était parfois plus une barrière qu'un facilitateur, entre guillemets.
Ouais, bah pour vraiment être accueilli dans la maison des gens, c'est une barrière. Et après, je sais que moi, je m'étais un peu ouais fermé à ça suite au voyage d'Amsterdam, parce que en allant à Amsterdam, on avait vraiment essayé de demander le soir à des gens si c'était possible de ne serait-ce que prendre une douche chaude et ne pas dormir chez eux ou quoi. Avec le chien, c'était toujours après, on était dans des pays beaucoup plus français, on a fait France, Belgique, Pays-Bas. C'est pas comme le Monténégro où les gens ont ce goût pour l'accueil. Mais j'ai très rarement cherché à être accueilli. En fait, j'aimais bien aussi trouver mon petit coin de nature et planter ma tente et me retrouver tout seul avec une vue d'hôtel 5 étoiles juste en plantant ma tente. Donc en termes d'accueil chez les gens, pour dormir, je l'ai pas trop vécu. En Albanie, on l'a fait 2-3 fois parce que c'était des endroits qui criaient un peu. On préférait poser notre tente dans les jardins des gens. Mais pareil, c'était toujours dans les jardins des gens, c'était pas au sein de la maison. Mais sinon, après, c'est un peu aussi ma faute et un choix, mais je suis moins allé vers les gens pour l'accueil à la maison pour dormir, quoi.
Alors, on n'a pas parlé de la Grèce encore, mais je sais qu'en Grèce, il y a pas mal de chiens errants d'expérience. Peut-être ailleurs aussi au Monténégro, en Albanie, tu me diras. Mais comment ça se passe quand tu as un chien avec toi sur ton vélo et que tu as plein de chiens tout autour?
Ouais, ça faisait partie des appréhensions aussi, mais plus pour l'Albanie, où on m'avait dit que c'était vraiment, il y avait vraiment, enfin, c'était courant, les chiens errants, quoi. En Albanie, on n'a pas eu trop de problèmes, hormis quelques fois la nuit où je sentais que il y avait des chiens errants qui venaient rôder un peu autour. Mais pareil, je pense qu'ils sentent l'odeur du chien et qu'ils sont limite moins curieux en sentant l'odeur de mon chien qui était avec moi à côté de la tente, plutôt que si j'avais été tout seul. Donc en Albanie, ça allait. Après, en Grèce, j'ai eu quelques mauvaises expériences quand même, où je passais dans des champs, enfin dans des chemins le long des champs, et d'un coup, on tombe sur trois gros chiens qui étaient en train de dormir au soleil, ils voient le chien dans la caisse, forcément, ils commencent à courir après nous. Et si, il y a quand même 2-3 fois où c'est des habitants qui sont venus m'aider, qui m'entendaient crier, et tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu dois accélérer et continuer de te faire courser par les chiens, ou s'il vaut mieux s'arrêter et essayer de leur faire peur, sauf que je me disais toujours s'ils commencent à sauter sur mon chien, enfin, je m'inquiétais un peu, quoi. Et donc, si, il y a quand même 2-3 fois, mais plus en Grèce, ouais, où c'est des gens qui sont venus m'aider et qui, eux, n'hésitaient pas à courir après les chiens et leur faire plus peur que l'inverse. Et qui m'ont un peu sorti de la panade comme ça, quoi.
Et ton chien, lui, était totalement relaxé dans sa caisse.
Oh non, lui, c'est toujours tranquille.
Une vraie peluche.
Ouais, non, ça là-dessus.
J'ai une question qui me vient en tête que je pose pas forcément souvent. Du coup, tu es voyageur en solo avec ton chien. Enfin, pas sur tout le voyage. Tu as beaucoup voyagé avec d'autres, mais bon, on va te dire que tu as quand même parcouru quelques kilomètres en solo. Comment tu fais pour les ravitaillements, pour aller faire les courses? Tu laisses le vélo et ton chien dehors? Tu fais comment?
Ouais, c'est exactement ça. Du coup, je prenais souvent des petits commerces de proximité ou des marchés. Le marché, c'était l'idéal parce que j'avais pas besoin de me séparer du chien. Mais sinon, ouais, j'attachais le chien au vélo, en fait. J'attachais le vélo devant le magasin, le chien au vélo. Et je lui disais de s'asseoir et de pas bouger. Et j'allais faire mes courses le plus rapidement possible. Mais il supporte pas d'être tout seul plus d'une minute, donc au bout d'une minute il se mettait à aboyer dans tous les sens. Donc souvent je posais mes courses dans le magasin, je sortais, je lui faisais une petite caresse, j'essayais de le rassurer, je retournais terminer mes courses. Et on a toujours un peu l'inquiétude aussi que quelqu'un prenne le chien et s'en aille avec, quoi. Mais bon, ça, il tient tellement à moi que je pense que je l'aurais entendu partir. c'était pas le plus facile, ouais, les courses. C'était, bah, je le laissais tout seul devant, mais c'était toujours, si on le compare à un enfant, une scène d'enfant devant le magasin pour que papa revienne, quoi.
Ouais, c'est trop mignon.
Donc,
Enfin, à vivre, c'est peut-être un petit peu embêtant, mais raconter, c'est trop mignon. Bon, ça te fait un bon antivol pour le vélo aussi. C'est pas mal.
J'espérais qu'en 3 mois, ils finissent par comprendre que quand je rentre dans un magasin, c'était pour 5 minutes pour faire mes courses, mais je pense qu'il a compris, mais qu'il n'était pas d'accord, quoi. Donc, jusqu'à la fin, il a bouillé.
On a parlé du Monténégro, de l'Albanie, et puis bah, après tu es arrivé bah, déjà en Grèce pour bah, la fin de ton voyage. Tu as été jusqu'à Athènes, après on verra que tu es remonté vers le nord, mais on va dire que Athènes était quand même un peu le point le plus éloigné que tu pouvais atteindre.
Ouais.
Comment s'est passée cette partie du voyage en Grèce? Est-ce que tu peux nous décrire un peu les paysages?
J'ai longé la côte du coup au début en Grèce. C'est pas vraiment des montagnes, mais les flancs de montagne qui descendent un peu dans la mer directement. C'était magnifique. Et moi j'ai toujours dit avant de partir que l'objectif c'était d'arriver en Grèce et de pouvoir pédaler sous un grand cagnard au milieu des oliviers, sur des petites routes au milieu des oliviers. Et c'était exactement ça au début. Enfin, après c'était l'image que je voulais aussi. Donc dès que je passais dans un champ d'oliviers, j'étais ravi. Et j'étais en plein rêve, quoi. Mais non, surtout ouais, bah, enfin le climat, un temps incroyable et des paysages quand même magnifiques. On a malheureusement pas fait les îles. Il y a quelques îles qu'on aurait pu atteindre en ferry, pédaler un peu sur l'île et rejoindre le continent un peu plus tard. Mais du coup j'étais avec Louis et Louis avait une date d'arrivée encore plus courte que moi, il me semble. Du coup on était un peu pressé par le temps. Et au final on est allé tellement vite qu'on est arrivé tous les deux beaucoup trop en avance. Mais bon, c'était pas plus mal, on a pu passer quelques jours à Athènes ensemble, et, visiter ensemble, profiter, se reposer un peu, vivre une vie normale, avec chacun notre chambre, avec un peu de confort, une douche, et aller boire des coups le soir. Enfin, retrouver une vie un peu de citadin comme on l'aime en tant que Nantais, même si à chaque fois on cherche à partir pour la quitter, on est content de la retrouver, quoi.
Et est-ce que pour toi c'était la fin du voyage à Athènes, vu que tu as continué après, tu es remonté vers le nord de la Grèce pour prendre un ferry?
À la base, ouais, c'était censé être la fin du trajet. Je savais pas trop comment j'allais rentrer chez moi. Parce que l'avion, c'était hors de question avec le chien, parce que j'ai pas envie que mon chien prenne l'avion. Et donc je savais que ça serait en ferry, mais au début je m'étais dit je prendrais un ferry d'Athènes pour Saint-Nazaire ou je sais pas. Enfin, je voulais embarquer sur un cargo un peu de marchandises et rentrer comme ça. Il se trouve que ça se fait plus trop et que c'est un peu plus compliqué qu'avant pour rentrer comme ça. J'ai commencé à me renseigner sur les ferries et j'ai vite compris que d'Athènes, en fait, il n'y avait pas de ferry qui allait vers l'Italie ou vers la France. Et donc j'ai vu qu'il fallait que je rejoigne Patras, qui était de mémoire à 300 km, je crois, d'Athènes, même pas. Et donc je suis revenu sur mes pas jusqu'à Patras. Et j'avais trouvé un coin super sympa sur la route avec une plage où il y avait une douche, où il n'y avait personne. Et donc je suis parti un peu en avance d'Athènes, enfin avant le ferry, et en me disant que j'allais me reprendre 3-4 jours de vacances là-bas, puisque c'était comme un camping, j'avais ma douche, de quoi faire ma vaisselle, c'était parfait. J'avais même un banc, donc je pouvais m'asseoir. Et donc j'ai rejoint cet endroit-là, je suis resté quelques jours là-bas où j'ai fait une rencontre aussi magnifique, ouais, pour parler des rencontres, un Grec d'origine anglaise qui s'était installé là-bas en tant que prof d'anglais, et qui pendant 3 jours m'a baladé partout dans sa voiture. Dans le Péloponnèse, où on est rentré un peu plus dans les terres, et il m'a montré des endroits vraiment magnifiques. Lui, il connaissait un peu la culture grecque en plus, donc il mettait tout en lien avec l'histoire. On a visité des monastères, j'ai visité une église construite dans un arbre. Donc dans le tronc de l'arbre, il y avait une église. Ça, c'est un truc qui m'a marqué à vie. Et c'est pareil, lui, il avait toute sa bande d'amis là-bas, donc je me suis vraiment senti intégré dans ce groupe, et c'était 4 jours de vacances. Avec un nouveau groupe d'amis que je me suis fait en l'espace de 3 heures, quoi. Mais c'était vraiment super. Et donc ensuite j'ai rejoint Patras pour prendre le ferry, rentrer en ferry jusqu'à Venise, où je me suis organisé parce que ma mère était en vacances en camping-car en Croatie. Et donc j'ai un peu plaidé pour qu'elle vienne me chercher à Venise et qu'elle puisse me ramener jusqu'à La Rochelle, parce que j'avais promis à mon école d'être de retour à La Rochelle. J'ai plus la date en tête, mais fin août, quoi. Pour pouvoir faire une présentation justement sur mon aventure et raconter un peu à chaud cette expérience. Donc il fallait que je sois de retour pour une certaine date, et en vélo, je savais que de Venise jusqu'à La Rochelle, c'était pas possible. Et donc elle a gentiment fait un petit crochet par Venise pour venir me ramener en camping-car jusqu'à La Rochelle. Et on a mis quelques jours à rentrer quand même, donc je retrouvais le plaisir de pouvoir planter ma tente à côté du camping-car le soir quand même, c'était progressif.
Ouais, ça c'est chouette. Et donc on n'en a peut-être pas trop parlé, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé à la fin de ton voyage à Athènes? Est-ce que tu étais content d'arriver? Est-ce que tu étais triste que ça soit fini?
Vraiment, le moment où je suis rentré dans Athènes, j'étais heureux, vraiment heureux. Il n'y avait plus aucun problème. J'avais atteint mon objectif. C'était génial. Enfin, je me vois encore chanter et danser en rentrant dans Athènes sur mon vélo, quoi. Par contre, les quelques jours d'avant étaient un peu plus compliqués, ouais. Parce que je sentais que ça allait être la fin, que je m'étais quand même habitué à ce mode de vie qui me plaisait énormément. Une fois arrivé à Athènes, après, on s'est dit qu'on avait quelques jours avec Louis, qu'il fallait qu'on profite. On voulait un peu tout visiter dans Athènes aussi, donc on a été pas mal occupé là-bas. Et c'est plus en prenant le ferry, en montant sur le ferry, en voyant le ferry quitter. Là, j'avoue, j'ai versé ma petite larme même parce que j'étais vraiment triste que ça se termine, quoi. Enfin, le ferry marquait vraiment la fin du vélo et de l'aventure, quoi. Donc, je rentrais chez moi, quoi.
Je comprends, surtout après, 2 mois et demi de voyage à vélo, avec personne que tu ne connaissais avant de partir, je comprends
C'est ça.
que ça marque ouais, un peu la fin de ton aventure.
Enfin, je sais que mes deux voyages, là, quand je suis parti à Amsterdam pendant un mois aussi, et là quand je suis revenu d'Athènes, enfin moi je vois, j'étais beaucoup plus heureux avec rien sur mon vélo, à errer un peu, à aller où je voulais. Enfin, je dis toujours que ces 3 mois-là, quand je suis parti à Athènes, c'est les 3 mois où j'ai été le plus heureux de toute ma vie, quoi. Il n'y avait pas de problème, c'était la liberté, non, c'est le bonheur.
En tout cas, tu retransmets bien, donc tu retransmets aussi sur ton compte Instagram Athéna Vélo, sur lequel tu as partagé pendant ton aventure, comme tu nous disais au début, du coup, des photos de ton voyage avec ton chien. Et sur ton compte Instagram, on peut aussi voir tout ton équipement. Donc, si ça intéresse nos auditeurs, c'est sur Athéna Vélo qu'il faut aller le voir.
Ouais.
Est-ce que c'est uniquement un projet lié à ton école qui t'a poussé à ouvrir ton compte Instagram et à partager ton voyage, ou il y avait quelque chose d'autre derrière?
Déjà, moi je l'appelle ça un peu mon carnet de bord de ce voyage-là. Je sais que si dans 10 ans, si j'ai envie de regarder toutes mes étapes, j'ai juste à prendre toutes mes publications une par une, et ça fait mon carnet de bord du voyage, quoi. Et en plus, quand j'étais parti à Amsterdam, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait. On avait quand même une GoPro pour se filmer un peu. On a monté un film avec le peu de talent de monteur qu'on a pour retransmettre un peu ce voyage. Et ce film, je le regarde encore au jour d'aujourd'hui. Ça m'arrive un soir de le regarder et juste de me souvenir de ce voyage et de me replonger dedans, d'être content et tout. Donc c'était un peu ça le but aussi. Et comme je disais, donner envie plus de personnes possibles de faire du vélo, ne serait-ce que partir un week-end, même les gens qui ont des enfants ou quoi. Je vois, nous, à Nantes, on a le canal juste à côté qui va jusqu'à Brest, il me semble. On peut partir juste quelques jours avec des enfants sur des endroits vraiment accessibles en vélo, où c'est plat, où c'est pas difficile, où chacun va à son rythme. Et donc donner cette envie, en fait, j'ai essayé de promouvoir le fait que moi j'étais heureux sur mon vélo et que je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, une expérience comme ça.
Et du coup, là, dans le cadre de cet épisode, ça permet aussi de mettre des images sur tes mots et de se projeter encore un peu plus dans ton voyage. Donc, c'est très chouette d'avoir ton Instagram Athéna Vélo comme support.
Yes, c'était le but.
Et tu m'as dit qu'il y aurait peut-être une suite ou en tout cas d'autres supports sur lesquels on pourra découvrir ton voyage.
Ouais, en effet, du coup, j'essaie de faire une série. Au départ, je voulais faire un film, mais c'est trop compliqué de condenser toutes les images. Donc j'ai dit, je vais plutôt faire ça sous forme d'épisodes un peu plus courts, mais avec plusieurs épisodes. Et donc, je suis en train de monter la série. Donc, enfin, le montage est fini. Mais ça fait un petit truc roots, c'est un peu cool. Mais du coup, je voulais rajouter des voix off parce que j'ai eu pas mal de soucis avec le matériel pendant le voyage. Donc je veux faire une voix off et j'ai pas trouvé le talent en moi encore pour faire cette voix off. J'ai essayé. Après, on n'est pas objectif quand on s'écoute soi-même. Mais tout seul derrière ma série, j'arrive pas à mettre assez d'émotion dans la voix off encore pour que ça donne envie. Donc il me reste juste ça à finaliser. Et dans un second temps, je vais également faire un livre, un peu sous forme de si les gens voulaient partir sur le même itinéraire, ce que je conseillerais ou ce que je conseillerais pas dans moi, les itinéraires que j'ai pris, les coins qui sont absolument à visiter, les coins qui sont absolument pas à visiter, ou un peu faire un guide, mais sous forme un peu d'histoire racontée comme ça, ou si les gens veulent même faire ne serait-ce qu'une partie du voyage, ou quand ils lisent le livre, ils se disent, ah bah, cette partie, elle a l'air vraiment cool, ça serait bien de partir, ne serait-ce qu'une ou deux semaines, faire seulement ce bout de chemin-là, quoi.
Ben j'espère que quand tu écouteras cet épisode, ça révélera la voix off qui est en toi, du coup.
J'espère, j'espère.
Va clore ce voyage, du coup, de Nantes à Athènes. Et puis, on va passer un petit peu sur les projets et puis le futur. Est-ce que tu as des projets de voyage à vélo ou est-ce que tu as des destinations qui te feraient rêver?
Comme quand je suis revenu d'Amsterdam, j'ai dit que la prochaine ce serait Athènes. Là, quand je suis revenu, j'ai dit que la prochaine ce serait un tour du monde à vélo. Donc, c'est vraiment à l'état de projet encore parce que faut que je termine mes études, que je bosse un peu, que je trouve le temps parce que je veux plus être pressé par le temps comme j'ai pu l'être pendant le voyage à Athènes. Je veux pas une contrainte de temps en fait. Et je veux pouvoir, pendant ce tour du monde, si j'ai envie de m'arrêter un mois dans un pays pour bosser un peu, me faire de l'argent, ou ne serait-ce que me reposer, avoir ce temps-là. Donc je veux vraiment dédier, ouais, entre 2 à 3 années à ce projet. Sans le chien cette fois-ci, je pense, par contre. Mais bah, il va commencer à se faire vieux, je sais même pas s'il sera encore là quand ça sera. Après, si lui il est encore là, je verrai pour l'emmener, ou s'il y en a un autre d'ici là, on verra aussi, mais c'est clair que si j'ai un chien à ma charge, enfin à moi entre guillemets à ce moment-là, je le laisserai pas pendant 2 3 ans en France dans tous les cas, donc je l'emmènerai. Mais ouais, c'est vraiment à l'état de projet quoi, c'est même à l'état de rêve un peu, mais que j'essaie de concrétiser quoi.
Ben c'est un très beau rêve et un très beau projet. Et puis j'espère qu'il nous donnera des nouvelles du coup.
Bah, avec grand plaisir, vous serez les premiers au courant.
On te suivra dans ce tour du monde à vélo. Et ouais, je pense que tu auras des images qui nous feront rêver. Toute dernière question pour conclure ce podcast. Quels conseils pourrais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un tout premier voyage à vélo? Et alors, je vais complexifier un petit peu, un tout premier voyage à vélo et peut-être avec un chien.
Premier conseil, faites-le déjà. Si vous vous demandez s'il faut le faire ou pas, c'est que dans le fond, ça vous donne envie, donc partez, faites-le. Et qu'il y ait un chien ou qu'il n'y ait pas de chien, il faut juste trouver le bon moyen de locomotion pour le chien, on va dire, enfin le bon moyen de porter le chien. Il y en a beaucoup qui utilisent des remorques, par exemple, comme pour les petits enfants. C'est peut-être plus conseillable d'ailleurs qu'une caisse à l'avant du vélo. Ça a ses avantages et ses inconvénients, mais oui, faites-le si vous vous posez la question, c'est qu'il faut partir. Et chacun son rythme, de toute façon. Enfin, il y a plein de gens qui voyagent en vélo, qui font pas forcément des bornes et des bornes tous les jours et qui pédalent un jour sur deux. Chacun son rythme, et c'est vraiment ça l'avantage du voyage en vélo, c'est que on a le temps de tout apprécier, de passer par des endroits qu'on n'avait pas prévus, de découvrir des choses qu'on n'avait pas prévues. Et pour le chien, ça vous fera seulement une très bonne compagnie en plus. En plus, si vous avez déjà votre chien, vous savez autant que moi que c'est compliqué de s'en séparer longtemps. Il faut les emmener.
Beaucoup de très bons conseils qui poussent à voyager avec son chien ou son chat d'ailleurs. Je vois des voyageurs qui voyagent avec leur chat.
Ça marche aussi, ouais.
Ton voyage en Europe donne vraiment envie d'aller découvrir tous ces pays et dont l'Albanie, dont on ne parle pas forcément énormément. Mais c'est une très belle expérience et du coup, il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton beau témoignage et à te souhaiter une belle continuation sur les routes d'Europe, du monde et de tous les continents, du coup, si j'ai bien compris.
Je l'espère ainsi, en tout cas. Non, mais vraiment, merci à toi, du coup, de permettre à des voyageurs comme nous de témoigner, de partager leurs expériences, parce que c'est vraiment génial. Moi, quand j'écoute les podcasts, à chaque fois, on se replonge un peu en voyage, et c'est vraiment super.
Ah bah ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, Tom. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Cyclotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur cyclotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans 2 semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao !